Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce samedi 12 décembre. Au sommaire de cette édition, eh bien, nous avons une rétro et pour ce samedi, l'invention du signal radio. On parlera également de l'Alliance française de Perth en Australie et enfin, on va découvrir les péripéties d'une quarantaine qui a plutôt mal tourné. Mais à présent, l'actualité de ce samedi 12 décembre. Au sommaire de cette édition, 43e journée consécutive sans cas de Covid-19 au Victoria. Et attentat de janvier 2015 en France, la défense de Maclouf plaide l'acquittement faute de preuves. Et le Maroc est devenu le 4e pays à normaliser ses relations avec Israël en moins de 4 mois. Le Victoria a passé une 43e journée sans nouveaux cas de Covid-19, mais on a recensé 5 nouvelles infections liées à des personnes en quarantaine en provenance de l'étranger. Ce dernier développement intervient alors que le gouvernement fédéral a annoncé que 30 000 coupons supplémentaires seront disponibles à partir de ce lundi pour soutenir le tourisme dans les milieux ruraux du Victoria. On se souvient que la forte demande de ces coupons avait causé le crash du site de Business Victoria hier. Ces coupons, il faut le rappeler, permettent de se faire rembourser 200 $ de frais de logement, billets ou autres frais aux personnes qui choisiraient de passer leurs vacances au Victoria en milieu rural et à condition d'y dépenser au moins 400 $. Et à partir de ce samedi 12 décembre, les Néo-Zélandais seront autorisés à se rendre au Queensland. Ainsi, tous les États australiens, sauf l'Australie-Occidentale, sont ouverts aux Néo-Zélandais. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a précisé que la position de son gouvernement vis-à-vis des voyageurs en provenance d'Australie reste inchangée. Cependant, elle a souligné qu'elle voudrait voir une certaine cohésion dans les politiques des différents États et territoires australiens quant à l'accueil des Néo-Zélandais.
With a state-by-state approach, you've seen that there hasn't been one approach to if there's an outbreak in an Australian state. So that means that New Zealand would have to navigate whether or not we would close our border in an outbreak, depending on how other states react. So that brings a little more uncertainty for us.
Et les différents niveaux de gouvernement en Australie, que ce soit au niveau fédéral, au niveau des différents États et territoires australiens, eh bien, on a convenu d'établir des relations bilatérales avec les États du Pacifique pour faire venir des travailleurs saisonniers en Australie. En effet, les restrictions des voyages internationaux ont engendré une pénurie de main-d'œuvre dans le milieu agricole. Et il faut souligner que les agriculteurs manquent de travailleurs pour cueillir leurs récoltes. Le protocole fédéral des travailleurs saisonniers a été amendé à cet effet et tient compte désormais de la crise de Covid. Le premier ministre Scott Morrison a souligné que les travailleurs saisonniers sont cruciaux pour l'économie australienne.
Each of the states and territories are confronted with different circumstances on the ground and different capabilities and capacities. In Queensland, for example, there's been a very, very successful on-farm quarantine for seasonal workers program that has been underway and has really been supporting the Queensland agricultural sector and the primary producers. But now we want to ensure that we can move to other arrangements in states and territories where that need is critical.
Et s'adressant à un forum en ligne des États du Pacifique, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que l'Australie s'est engagée sur la bonne voie pour atteindre les objectifs climatiques fixés il y a 5 ans lors de l'accord de Paris.
Australia is translating our climate change commitments into reality through effective action. This is not prospective, this is now. We are acting now, we are achieving. And we are exceeding our goals. Australia is very confident that we will now achieve our 2030 target without the need to draw on our carryover credits that Australians earned from overachieving on our Kyoto era commitments.
Mais il faut souligner que l'Australie n'a pas réussi à prendre la parole aujourd'hui dans le sommet des Nations Unies sur le climat qui a lieu en ce moment. La Grande-Bretagne, qui préside à ce sommet, accuse en effet l'Australie de ne pas faire assez d'efforts en matière climatique. Et en France, les plaidoiries de la défense s'est poursuivie hier au procès des attentats de janvier 2015, avec celle notamment de Saïd Maclouf. Saïd Maclouf, c'est cet ex-ambulancier de 31 ans, mis en cause pour la recherche d'armes et dont l'ADN a été retrouvé sur un taser de Koulibaly. Le parquet a requis 13 ans de prison ferme. Sa défense, elle, a réclamé l'acquittement. Et coup dur pour Sanofi, le laboratoire a annoncé hier que le candidat vaccin qu'il développe contre le Covid-19 n'est pas aussi efficace que prévu et qu'une nouvelle phase d'amélioration va devoir débuter, retardant ainsi le calendrier. Le groupe espérait le rendre disponible au premier trimestre 2021, mais il faudra désormais attendre la fin de l'année prochaine au mieux. Et contrairement à Pfizer et Moderna, le produit développé par Sanofi n'est pas un vaccin à ARN, il est dit à particules pseudo-virales. Cette technique consiste à synthétiser quelque chose qui ressemble au virus, une coquille vide sur laquelle peut s'entraîner notre système immunitaire. Sur le papier, cette technologie est très efficace, mais également très complexe à développer, ce qui expliquerait les difficultés rencontrées. Et la Cour internationale de justice a tranché en faveur de la France dans l'un des volets du litige des biens mal acquis impliquant le fils du président de Guinée équatoriale. Ce pays africain avait saisi la justice internationale contre la France dans une dispute concernant un immeuble luxueux sur la prestigieuse avenue Foch. Malabo avait affirmé que cet hôtel particulier appartenant au fils du chef d'État guinéen était en réalité une enceinte diplomatique. Stéphanie Mopa de RFI précise que le juge de la Cour internationale n'a pas cru en cette version des faits mise en avant par Malabo.
Pour Malabo, le 42 avenue Foch à Paris était un bâtiment diplomatique et dès lors inviolable. Faux, ont estimé les juges de la CIJ et la France n'a donc pas perquisitionné une ambassade. Pour qu'un bâtiment acquière le statut, il faut qu'il s'y déroule une activité diplomatique bien réelle, ont estimé les juges, précisant qu'il ne s'agit pas de privilégier des individus. Lors des plaidoiries, les avocats de la France avaient évoqué le somptueux pied-à-terre du fils Obiang. La France s'est objectée en temps voulu, a aussi déclaré le président de la Cour et son objection n'était ni arbitraire ni discriminatoire, contrairement à ce qu'avait plaidé Malabo. Les juges ont noté au passage que la Guinée équatoriale a revendiqué le statut diplomatique de cet hôtel particulier après une première perquisition par la justice française fin septembre 2011. Malabo n'a jamais caché avoir saisi la CIJ pour tenter de freiner la procédure en France, dans laquelle en février dernier, Théodorin Obiang a été condamné à une peine de 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de cet hôtel particulier. Mais l'exécution la confiscation était suspendue à la décision de la Cour de cassation, qui est, elle, toujours attendue, et celle de la Cour internationale de justice. Le dossier a donc franchi aujourd'hui une nouvelle étape.
Et le Maroc est devenu le 4e pays à normaliser ses relations avec Israël, ce en moins de 4 mois. En échange, Rabat a obtenu la reconnaissance par les États-Unis de sa souveraineté sur le Sahara occidental. D'aucuns parlent d'événements historiques, d'autres par contre dénoncent ces accords, les qualifiant même d'exploitation cynique des dernières semaines de Donald Trump à la Maison-Blanche. Explication Muriel Paradon pour RFI.
Une des rares réactions est celle de l'Égypte, et elle est lapidaire. Sur son compte Twitter, le président Abdel Fattah al-Sissi salue l'accord de normalisation entre le Maroc et Israël, le qualifiant de pas important vers davantage de stabilité et de coopération régionale. L'Égypte a été en 1979 le premier pays arabe à établir des relations diplomatiques avec Israël, mettant fin à l'état de guerre entre les deux pays. En Europe, c'est l'Espagne qui s'est exprimée en premier. L'ancienne puissance coloniale au Sahara occidental dit se réjouir de la normalisation entre le Maroc et Israël, mais maintenant il reste à résoudre le problème de la paix entre Israéliens et Palestiniens, dit la ministre des Affaires étrangères, Arantxa Gonzalez, et le problème du Sahara occidental. Dans les deux cas, la position de l'Espagne est claire, se conformer aux résolutions des Nations Unies. Les Nations Unies, justement, ont réagi par la voix du secrétaire général face à la reconnaissance unilatérale par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Notre position reste inchangée, affirme Antonio Guterres.
Et la Cour suprême des États-Unis a infligé hier un nouveau camouflet à Donald Trump en refusant de se saisir d'un recours formulé par les autorités du Texas qui visait à annuler sa défaite à la présidentielle. Ces 9 sages, dont 3 nommés par le président républicain, ont estimé que le Texas n'était pas en droit de se mêler de l'organisation des élections dans les autres États. Donald Trump, qui refuse toujours de concéder sa défaite, avait pourtant jugé ce dossier très solide en intervenant personnellement dans la procédure. Et au cours d'un Conseil européen marathon, les 27 pays de l'Union européenne ont trouvé des accords et des compromis sur de nombreux dossiers. Le climat est un de ces dossiers clés sur lesquels les 27 se sont fixés des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions carbone. Explication depuis Bruxelles, Pierre Benazet pour RFI.
Les nouveaux objectifs climatiques représentent une augmentation nette des ambitions de l'Union européenne, puisqu'ils étaient jusqu'ici fixés pour 2030 à 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. C'est donc désormais de 55% que les 27 devront réduire leurs émissions de CO2 d'ici 10 ans, avec toujours cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour parvenir à cet objectif, déjà dessiné lors d'un sommet européen il y a un an, il aura fallu vaincre les réticences de la Pologne, qui n'aurait de toute façon rien accepté en l'absence du compromis budgétaire. À l'instar d'autres pays d'Europe centrale et orientale, Varsovie voulait des garanties de soutien financier. Ceci lui a été accordé via une réforme du mécanisme de compensation des émissions, ainsi d'ailleurs que par la création d'un droit d'entrée, une sorte de taxe carbone aux frontières de l'UE. De la même façon, les 27 ont avalisé le principe de la neutralité technologique. Ceci permettra de faire le choix du nucléaire, une série d'avancées importantes pour permettre à la Pologne de dépasser sa forte dépendance au charbon.
Et il faut rappeler que ce sommet des 27 a aussi permis de surmonter des divisions pour décider le principe des sanctions contre les activités illégales de la Turquie en Méditerranée orientale. Et on reste toujours dans le Moyen-Orient, au Kurdistan tout précisément. Eh bien, de nombreux habitants de la grande ville kurde de Soleimaniye ont répondu hier à l'appel à manifester au Kurdistan au Kurdistan irakien. Cela fait 2 semaines que le mouvement descend dans la rue pour dénoncer la corruption des autorités de la région autonome. Comme nous l'explique Oriane Cordier de RFI, ces autorités sont jugées responsables de la misère dans laquelle vit le peuple et hier, la répression a de nouveau été très violente.
Les Peshmerga ont été déployés depuis plusieurs jours dans le gouvernorat de Soleimani. Rappelez-vous, ces militaires kurdes sont normalement voués à défendre leur peuple face à un ennemi externe. Aujourd'hui, opposants politiques et manifestants connus se sont vus interdits d'entrer dans les grandes villes, notamment au checkpoint de Soleimani. Malgré tout, la foule était au rendez-vous au cœur de la ville, tout comme à Kalar, plus au sud, ou dans d'autres centres-villes de cette région du nord-est de l'Irak. Les organisateurs historiques des manifestations appellent au retour à un mouvement pacifique après la mise à feu de nombreux bureaux politiques ces derniers jours. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés aujourd'hui avant même le début de la manifestation, tout comme des hommes politiques d'opposition et plusieurs journalistes venus couvrir les manifestations. Dans la très contrôlée capitale du Kurdistan irakien, Erbil, le courant a été coupé, une manière semblerait-il de ralentir Internet et l'accès à l'information afin d'éviter que la colère n'envahisse la zone ouest du Kurdistan irakien. Sur les réseaux sociaux, justement, de nombreuses vidéos montrent la violence de la répression de ce vendredi, avec à certains endroits des tirs à balles réelles.
Et à présent, retour en Australie et un coup d'œil météo à travers les principales villes du pays. Bien, Perth, 31 degrés, Adelaide, 35, Melbourne, 27, Hobart, 23, Canberra, 20, Wollongong, 20, Sydney, 23, Newcastle, 23 également, Brisbane, 26, Cairns, 32 et Darwin, 34 degrés. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité. La 43e journée consécutive sans Covid-19 au Victoria et attentat de janvier 2015, la défense de McLouf plaide l'acquittement faute de preuves. Le Maroc est devenu le 4e pays à normaliser ses relations avec Israël en moins de 4 mois. Fin de ce bulletin, après une pause, on passe au magazine des sports.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Dans l'actualité sportive de ce samedi, on commence par le football et plus précisément la Ligue 1 avec une rencontre qui se jouait tôt ce matin, heure d'Australie, rencontre entre Angers et Saint-Étienne, un match qui s'est terminé par un score nul 0-0. Et au tableau, toujours pour la 14e journée de Ligue 1, ce samedi, on signale des rencontres entre Marseille et Monaco, Lens et Montpellier, Nice, Rennes et Strasbourg contre Metz. La plupart des rencontres qui comptent pour la 14e semaine de Ligue 1 se joueront demain dimanche, dont le tant attendu clash au sommet entre le PSG et l'OL, respectivement numéro 1 et numéro 2 au classement, et séparés par deux tout petits points. Écoutons Rudy Garcia, patron de l'OL, à la veille de cette rencontre au sommet.
Je dirais que la particularité cette saison, c'est que c'est plus serré en tête du classement. Donc si on venait à gagner, on continuerait la série, ce serait bien. Être premier à ce moment de la saison, ce serait qu'anecdotique. Par contre, peut-être que pour le PSG, ce serait bien, parce que ça leur permettrait, au printemps, plutôt que déjà d'avoir 15 points d'avance et d'avoir plié le championnat, de continuer à cravacher, puis d'être prêt pour ces joutes européennes du printemps, de rester concentré, d'avoir des matchs de haut niveau, parce qu'on dit souvent que c'est une équipe qui n'est pas spécialement bien préparée sur la Champions League, parce que le championnat français n'est pas de suffisante qualité. Donc ironiquement, ça peut peut-être les aider aussi, si on gagne dimanche pour la suite en Champions League.
Côté PSG, on signale l'optimisme exprimé hier par le président du club parisien de pouvoir prolonger les contrats de ses stars Neymar et Mbappé. Et toujours en France et au football, la chaîne sportive Téléfoot va cesser de diffuser le championnat de France dont elle avait acquis les droits de retransmission à prix d'or. En grande difficulté financière, Téléfoot n'a pas réglé ses échéances à la Ligue de football professionnel, la LFP. Selon Alejandro Valente de Radio Foot International, tout porte à croire que Canal+ reprendrait le flambeau.
Canal+, qui est le diffuseur historique de la Ligue 1 et qui n'a aucun intérêt à voir les clubs français faire faillite et la Ligue 1 s'effondrer, va sauver, entre guillemets, le football français. En tout cas, il va les sauver en veillant sur ses intérêts, c'est-à-dire il va les sauver à ses conditions, à ses prix, donc à un tarif très inférieur à celui qu'avait promis Mediapro. Donc ça ne va pas empêcher les clubs français quand même de connaître des difficultés économiques, ils les connaissent déjà. Mais c'est peut-être un moindre mal parce que ces dernières semaines, quand même, on a frôlé le pire et on a pu imaginer une situation bien, bien, bien plus compliquée.
Et la FIFA a dévoilé ce jeudi soir son dernier classement des nations de l'année 2020. Aucun changement significatif n'est à signaler par rapport au mois dernier et la Belgique, qui devance la France et le Brésil, termine en tête pour la troisième année consécutive. À l'échelle africaine, le Sénégal fait encore plus fort, puisqu'après 2016, 2017, 2018 et 2019, les Lions de la Teranga se classent comme la première nation africaine pour la cinquième année d'affilée. Et la Tunisie est le champion d'Afrique en titre. L'Algérie complète le podium continental. Et au rugby, deux mois et demi après sa demi-finale du Challenge européen perdu à Bristol, 37-20, l'Union Bordeaux-Bègles s'est vengée en terre anglaise en battant hier soir Northampton 16-12. Pour la petite histoire, c'est un essai très opportuniste de l'ailier argentin San Diego Cordero, inscrit à 6 minutes de la fin, qui a permis à Bordeaux-Bègles d'ouvrir victorieusement la Coupe d'Europe nouvelle formule. Victoire donc de l'UBB qu'il faut rappeler, 16-12 dans sa rencontre contre Northampton. Et toujours au rugby, le Stade toulousain s'est imposé lui aussi hier soir face à l'Ulster, 29-22. Un bon score pour les Toulousains qui nourrissent toujours l'ambition de remporter un cinquième titre, record absolu dans une épreuve européenne qui leur est très chère. Un mot de cyclisme, eh bien, l'Union cycliste internationale a finalement mis au point un protocole de prise en charge des commotions en essayant de l'adapter aux courses sur route. Ce, trois mois après la chute violente de Romain Bardet sur le Tour de France. Et Sébastien Loeb disputera la première saison du championnat de SUV électrique Extreme E dans l'équipe fondée par Lewis Hamilton, ex-44. Monté par le promoteur de la Formule E, Alejandro Agag, l'Extreme E propose de faire courir des voitures tout-terrain électriques dans des écosystèmes fragilisés comme la forêt amazonienne, le Groenland ou le Népal. Outre Lewis Hamilton, plusieurs autres grands noms du sport automobile comme Carlos Sainz et Nico Rosberg ont également décidé d'engager des écuries dans cette nouvelle compétition. C'est tout pour l'actualité sportive de ce samedi 12 décembre. On passe à la suite du programme après une courte pause.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Nous sommes le 12 décembre. Notre rétro du jour, le 12 décembre 1901, le physicien italien Guglielmo Marconi réussit la première transmission radio au-dessus de l'Atlantique entre les Cornouailles anglaises et Terre-Neuve au Canada. Guglielmo Marconi qui recevra ensuite en 1909 le prix Nobel de physique. Retour sur cette invention de la radio qui a révolutionné les télécommunications avec des extraits du documentaire « L'aventure de la TSF ».
Cet inventeur de génie, venu d'Italie, est un visionnaire audacieux. Fort de ses expériences sur des ondes mystérieuses, il veut être le premier à envoyer un message télégraphique sans fil au-delà de l'Atlantique. Des espions tentent de s'emparer de son invention. Il espère établir une liaison radio permanente avec les navires en haute mer. Une technique aussi novatrice suscite également l'intérêt de l'armée. Guglielmo Marconi et l'aventure de la TSF. Les navires effectuent régulièrement des traversées à des milliers de milles marins de leur port d'attache. Pour ces géants des mers, la radio est un outil indispensable. Elle leur permet de rester en contact à tout moment avec les stations de contrôle à terre, ainsi qu'avec les autres navires. Mais il y a 120 ans, les capitaines au long cours étaient entièrement livrés à eux-mêmes. Londres, fin du 19e siècle. L'Angleterre est la plus grande nation maritime et tient à le rester. C'est alors qu'arrive en ville un jeune scientifique italien, avec une invention révolutionnaire. Guglielmo Marconi prétend transmettre à distance, sans fil, des signaux en morse. Cependant, il craint de voir des concurrents s'emparer de son invention. Tant que son brevet n'est pas déposé, il poursuit donc ses expériences dans le plus grand secret.
Gentlemen,
Mr. Marconi.
Devant les savants de cette docte assemblée, Marconi apparaît davantage comme un magicien que comme un scientifique. Son invention est accueillie avec beaucoup de scepticisme et on s'étonne qu'il ne la soumette pas à un débat public. Le dispositif de Marconi s'appuie sur le principe des ondes radioélectriques. Ce jour-là, il réussit à faire tinter une clochette à distance. Il est persuadé de réussir à accroître progressivement la portée de transmission des signaux. À cette époque, les équipages de navires ne peuvent se transmettre des informations que visuellement, notamment grâce à un code de signaux maritime. Cependant, lorsqu'ils sont en pleine mer, ils sont tout à fait isolés et n'ont aucune possibilité de lancer des appels de détresse. Avec son invention, le jeune Marconi espère bien faire évoluer cette situation. Cette innovation va lui conférer une notoriété internationale. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à des applications nouvelles. Un récepteur, un enregistreur à stylet pour consigner les messages et des bouteilles de LED, les ancêtres du condensateur, qui emmagasinent de l'énergie électrique et produisent des ondes électromagnétiques. Sur les côtes de la Manche, la société de Marconi lance l'exploitation de plusieurs stations de TSF. Marconi a choisi d'implanter la nouvelle station à Terre-Neuve, au large du Canada, car c'est le point le plus proche de l'Angleterre. Le 6 décembre 1901, la côte de Saint John est en vue. Marconi et ses assistants choisissent l'emplacement de Signal Hill, à quelques kilomètres à l'est, dans un ancien hôpital. C'est là qu'ils vont s'implanter provisoirement. Il serait illusoire d'espérer équiper la nouvelle station d'antennes gigantesques. Cela prendrait des mois et coûterait des sommes colossales. Ils n'ont apporté d'Angleterre que le strict nécessaire. Un simple cohéreur leur servira de récepteur, et pour installer les antennes, ils ont une idée audacieuse. Ils vont les maintenir en l'air grâce à des ballons et des cerfs-volants. Des câbles de 120 mètres de long vont servir de récepteurs aux signaux venant d'Angleterre. Cela fait deux jours que Marconi et ses assistants attendent désespérément de capter les signaux en provenance d'Angleterre. Le 9 décembre, ils ont envoyé un télégramme à la station de Paul Dew, donnant l'ordre aux opérateurs de commencer à émettre le signal Morse S. Jour et nuit, les opérateurs de Paul Dew envoient 250 fois de suite la lettre S sous la forme de trois signaux brefs. Ils renouvellent la séquence toutes les 5 minutes. Marconi n'a pas installé d'enregistreur à stylet. Il ne dispose que d'un écouteur téléphonique relié au cohéreur pour recevoir le signal. Mais il n'entend rien, hormis quelques grésillements et signaux parasites. À Paul Dew, les vapeurs de mercure qui émanent des condensateurs provoquent des saignements de gencives chez les opérateurs. Inlassablement, ils continuent à émettre au-delà de l'Atlantique le signal convenu. Tout à coup, à Signal Hill, l'écouteur téléphonique semble enfin transmettre un crépitement familier. Mais il est difficile à identifier, noyé au milieu d'autres bruits parasites. N'est-ce qu'une illusion ? Marconi demeure sceptique. A-t-il vraiment entendu trois faibles signaux ? Il demande confirmation à Kemp, son assistant. Au milieu des grésillements, Kemp finit lui aussi par entendre les trois signaux, la fameuse lettre S. Le jour même, Marconi prévient les directeurs de sa société, à Londres, puis il organise une conférence de presse. Le monde entier apprend l'incroyable nouvelle. La vie privée de Marconi est moins heureuse. Sa passion pour la TSF est tellement dévorante qu'il finit par quitter sa femme. Il ne semble pas fait pour mener une vie de famille. Marconi s'installe sur son yacht, baptisé Electra, qu'il aménage en laboratoire flottant pour y poursuivre ses expériences. En 1909, il reçoit, avec l'Allemand Carl Ferdinand Braun, le prix Nobel de physique, en reconnaissance de ses travaux sur la TSF. Il meurt d'une crise cardiaque le 20 juillet 1937. Ce jour-là, les stations de radio du monde entier lui rendent hommage en observant 2 minutes de silence.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
C'était Emmenez-moi avec Danny Brion. On va passer à une courte pause et après, Sandra va nous raconter ses péripéties en quarantaine à Perth.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir sur les ondes de Radio SBS Sandra. Sandra qui vient de Paris et qui se trouve à Perth en ce moment. Et Sandra, présentez-vous, parlez-nous un petit peu de vous-même avant de parler des 14 jours que vous avez passés en quarantaine à Perth.
Bah alors, bonjour. Alors, moi, je viens de Paris à la base, mais ça fait 4 ans maintenant que je vis à Sydney. Je me suis installée là-bas en 2016. J'ai rejoint mon partenaire qui, lui, est australien. Et voilà, et donc je suis directrice d'un restaurant à Sydney et voilà, 4 ans maintenant. Et là, j'ai dû partir en mai à Paris pour des raisons familiales et je suis rentrée il y a 2 semaines en Australie.
Vous avez atterri à Perth, pourquoi ?
Alors, j'ai atterri à Perth parce qu'il n'y avait pas du tout d'avion entre Singapour et Sydney avant très longtemps. Tous les avions étaient complets. Ou alors ça me faisait prendre l'avion pas avant janvier et donc du coup il y avait plus d'avions interstate donc un Perth Sydney il y en avait un peu plus, déjà pas beaucoup quand même mais il y en avait, j'ai réussi à en trouver un pour aujourd'hui mais ça a été très compliqué, ça a été des mois d'attente et de recherche mais voilà, mais il n'y avait pas d'avion du tout Singapour Sydney.
Alors racontez à votre arrivée à l'aéroport de Perth, c'était obligatoire d'aller en quarantaine, donc on vous a dirigé vers un hôtel, c'est ça ?
Exactement, en fait on arrive à l'aéroport de Perth, on est accueilli par, alors on récupère nos bagages, et en fait il y a des comptoirs qui sont installés, qui sont mis en place, où on arrive, on donne notre nom, et ils nous font attendre dans une salle. Ils nous font asseoir sur un banc avec toutes les personnes de l'avion. Donc, on attend que toutes les personnes de l'avion sortent et récupérer leurs bagages et se soient enregistrés à ce comptoir. Et la police est là, évidemment. Donc, pendant tout ce process, la police qui est là. Donc, c'est 3-4 voitures de police, des officiers, etc. Une fois qu'on est tous assis dans cet espace et que tout le monde est là, Il y a des bus qui nous attendent à l'extérieur, donc on est escorté par les policiers.
Ouais.
Et on monte dans ces bus et on ne sait pas où on va, donc on ne sait pas l'hôtel jusqu'à ce qu'on arrive devant l'hôtel en fait. Donc on monte dans le bus directement, les bus sont sur les pistes d'avion, hein, donc vraiment dans l'aéroport. Et voilà, et donc là, on a eu une demi-heure de bus et on est arrivé au Mercure Hotel.
D'accord. Et ce séjour dans une seule pièce, c'était combien de mètres carrés à peu près ?
Alors là, à l'hôtel où j'étais, donc le Mercure, ça devait être 15 mètres carrés. Ouais, c'est ça, 15 mètres carrés. Donc il y avait vraiment, un grand lit. Il y avait un petit espace cuisine. Enfin, un petit espace cuisine, c'est un mini frigo avec une bouilloire et une assiette, une fourchette et un couteau. Mmh. Et une tasse à café aussi. Et une salle de bain. Ouais. Et voilà, c'était pas de balcon, rien de, pas de chaise, pas de table.
Et donc, pas de possibilité de faire des exercices, j'imagine.
Alors, pas du tout de possibilité de faire des exercices. Moi, j'avais ramené mon yoga mat pour faire un peu de, ouais. pour faire un peu de yoga, essayer de faire un peu d'exercice. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Après, il y a des gens qui proposent de nous louer des exercices de cardio, donc des vélos d'appartement ou des elliptiques pour $20 par jour et ils nous les livrent à l'hôtel.
Ouais.
Donc ça c'est bien aussi. Mais voilà, il faut être pour avoir accès à ces propositions-là, il faut être sur des groupes Facebook, il faut être dans la communauté vraiment des gens qui sont en quarantaine quoi.
Et donc vous aviez accès à internet et tout ça ?
Alors, j'avais accès à internet, le wifi de l'hôtel était très mauvais malheureusement parce que la journée tout le monde utilise internet. Surtout que je pense qu'il y a quand même des gens qui doivent travailler, qui sont en télétravail, donc ils ont dû. Donc la Wi-Fi, la journée, c'était inexistant, quoi.
Ouais.
C'était inexistant, c'était très lent, donc il fallait attendre le soir, 22h, 23h, pour que ça redémarre un peu.
Pour vous, une soirée typique, c'était comment pouviez-vous, par exemple, dormir convenablement ?
Alors, ça a été très compliqué pour moi. Mon corps a eu une réaction très étrange, c'est-à-dire qu'en fait, comme il y a ce grand lit qui est au milieu de la pièce, et que j'étais la plupart du temps allongée,
ouais.
Mon corps a pas trop compris en fait. Donc j'avais des phases de sommeil qui n'étaient pas du tout habituelles, c'est-à-dire que ça pouvait m'arriver de dormir la journée pendant 6-7 heures et après d'être réveillée toute la nuit. Même en dormant, parfois je dormais 12-13 heures d'affilée, alors que j'étais pas forcément plus fatiguée que ça. Je me réveillais, je mangeais un bout et je me rendormais. C'était extrêmement bizarre en fait. Donc mon corps comprenait pas trop pourquoi j'étais tout le temps allongée. Donc je pense qu'il s'est conditionné dans le fait que s'il y a un lit, il faut dormir. Donc voilà. Donc c'était très étrange, très ouais. très étrange.
Et Sandra, y a-t-il eu un nettoyage de la pièce, de la chambre ?
Non. Pas du tout.
Pas du tout pendant les 14
pas
jours.
Pas du tout. Non, pas du tout. Il y a eu. Alors, au bout d'une semaine, on peut demander des nouveaux draps.
Ouais.
Mais c'est tout. Et donc, j'ai changé mes draps au bout d'une semaine. Même si, au bout d'une semaine, en fait, ça va. On n'est pas non plus obligé de changer les draps au bout d'une semaine. Mais c'était le principe de se dire qu'on avait quand même quelque chose de propre au moins. Mais non, sinon, il n'y avait pas du tout d'aspirateur dans la chambre. Il n'y avait pas de balai. Il n'y avait rien pour nettoyer, quoi.
Et en ce qui concerne les repas, est-ce qu'il y avait un choix ?
Alors, on avait un choix. Le seul choix qu'on avait, c'était végétarien ou non.
Oui.
Et ça, on nous le demande dès qu'on arrive à l'hôtel pour le check-in. Autrement, non, il n'y avait pas de choix. C'est matin, midi et soir. En fait, quelqu'un dépose une sorte de bag, de paper bag, devant notre porte et on le récupère, quoi. Mais c'est dans des plastiques containers. Il n'y a pas du tout de choix.
Et selon vous, est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer, l'hébergement, la qualité de service à l'hôtel ?
Alors, je pense que oui. Alors déjà, je pense que la qualité de service, je pense que tout le monde pourrait être d'accord avec moi, c'est le fait d'avoir au moins une demi-heure par jour où on peut prendre l'air frais, où on peut prendre l'air. Je sais qu'à Brisbane, ils font ça. À Brisbane, dans les hôtels, pour les gens en quarantaine, ils ont une heure par jour où ils montent sur le toit de l'hôtel pour prendre l'air pendant une heure.
Ouais.
Et je pense que ça, si tout le monde faisait ça, ça changerait tout. Parce que le fait qu'on ne puisse pas ouvrir les fenêtres, déjà, ça veut dire que l'air n'est pas renouvelé. Donc, on n'a que l'air conditionné pendant 2 semaines, ce qui est très mauvais. Moi, je suis sortie avec une peau absolument terrifiante. Enfin, j'étais pas bien du tout. Mmh. Et au niveau du nettoyage, oui, peut-être juste au moins... Bon, alors, pas un balai parce que c'est de la moquette, mais je sais pas, peut-être au moins du liquide nettoyant pour nettoyer au moins un peu les surfaces, peut-être ou un mini aspirateur, quelque chose, peut-être qu'on puisse louer aussi à la réception avec un acompte ou quelque chose, ce serait bien. Mais le fait de pas ouvrir les fenêtres, ça a été le pire en fait, parce que c'est là où la poussière s'accumule et du coup on est ça pourrait être amélioré, ouais, prendre l'air.
Sandra, merci d'être intervenue sur les ondes de SBS French. Merci pour ce témoignage. Merci.
Merci à vous. Merci de m'avoir appelé.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour avec une face, un profil. Sur un continent.
C'était Tu ne savais pas avec Gaëtan Roussel. Maintenant, passons aux activités de l'Alliance française de Perth.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
J'ai le plaisir d'avoir Audrey Lureau qui dirige l'Alliance française de Perth. Bonjour Audrey.
Bonjour Jean-Noël et bonjour à tous vos auditeurs.
Vous organisez une journée porte ouverte à Netherlands le 12 décembre.
Exactement, le 12 décembre, un autre événement qui est redondant hein, chez nous, une fois par an, on ouvre nos portes à tout le monde pour venir découvrir un petit peu nos activités donc linguistiques. Donc il y aura des petites activités de speed teaching pour les enfants, mais les adultes aussi. On aura des ateliers donc faits par nos enseignants. Et puis on proposera aussi de la nourriture. Il y aura des stands de crêpes, de nourriture, notamment de personnes qui viendront vendre et faire des démonstrations de ce qu'elles préparent, donc des Français. Et puis on aura la chance aussi d'avoir une petite sorte de marché de Noël avec quelques personnes qui viendront vendre des petits cadeaux pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de faire leurs emplettes.
Absolument. Et puis la dernière rencontre de 2020 pour le Book Club, c'est prévu pour le 14 décembre.
Oui, tout à fait. Donc on enchaînera le lundi qui suit effectivement avec notre dernier book club de l'année hein, qui a été lancé en plein confinement, un premier book club en ligne et puis qui finalement est revenu dans la bibliothèque de l'Alliance et qui perdure et on est très heureux de continuer à avoir ces conversations dans notre petite bibliothèque. Et on est très heureux de continuer cet événement récurrent maintenant à l'Alliance française.
Et ensuite, je crois qu'il y a une cooking workshop.
Oui, alors on a initié les premières classes de cuisine avec un chef français, Gauthier Turquois. Voilà, donc ça a été un tel succès que là, c'est Popular on Demand pour refaire un cooking class avant Noël. Donc là, c'est un menu spécial Noël avec un verre de vin. Et donc ça aura lieu effectivement le lundi, juste avant Noël, le 21 décembre, effectivement à l'Alliance française. Donc on est très heureux de pouvoir, et je vous cache pas qu'en fait, il y a déjà plus que 2 places pour cet atelier. Donc vraiment, si on voulait souhaiter y participer, allez vite sur notre site web.
Absolument, afpuf.com.au.
Tout à fait.
Et on enchaîne avec peut-être un rappel des cours de 2021. Il y aura une pause à Noël, mais vous reprenez le 4 janvier, c'est ça?
Tout à fait, on reprend dès le 4 janvier donc pour nos summer sessions hein, qui sont traditionnellement des cours sur une semaine pendant les vacances, donc les 3 semaines du 4, du 11 et du 18 janvier avec alors des linguistic camp pour les enfants à partir de 5 ans jusqu'à 8 ans, 2 heures tous les matins. On peut venir soit une journée, 2 journées, 3 journées ou s'inscrire pour toute la semaine. Même chose pour les plus grands entre 9 ans et 14 ans. Ils auront leur summer camp du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30. On peut les inscrire soit une seule journée, soit plusieurs journées, soit toute la semaine. Pour les adultes, nous aurons aussi des cours de révision, niveau A1 jusqu'au niveau B2. Et puis des cours de complete beginner le matin et le soir. Et quelques ateliers un petit peu plus spécifiques qu'on aime beaucoup organiser à l'Alliance des ateliers régions. Donc sur quelques régions de France. Voilà, donc toute la programmation de cette 50aine de cours est à découvrir sur notre site web et nos réseaux sociaux.
Et puis le premier trimestre 2021, c'est prévu à partir du 29 janvier prochain.
Oui, tout à fait. Alors une petite particularité cette année, on redémarre un vendredi puisqu'on a beaucoup de jours fériés sur ce premier terme, ça n'aura échappé à personne qu'il ne dure que 9 semaines. Vu qu'on a les fêtes de Pâques qui sont relativement précoces cette année, on redémarre un tout petit peu avant la rentrée des classes officielles des enfants. Donc le vendredi 29 janvier, on recommence les cours à l'Alliance.
Est-ce que les cours en ligne vont continuer en 2021 ?
Tout à fait. On a réussi à garder nos cours en ligne avec de plus en plus de personnes qui sont intéressées, qui ne se trouvent pas à peur justement et qui ont l'opportunité de pouvoir apprendre le français en ligne. Donc on a un fuseau horaire qui nous permet de toucher les gens qui sont à Espérance, à Géraldton et au-delà. Et cette offre de cours perdurera pour l'année 2021 aussi.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Audrey, pour cette année et vous souhaiter bonne fête de fin d'année et rendez-vous en 2021.
Pareillement, j'étais heureuse de vous retrouver tout au long de cette année. Je vous souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon repos et au plaisir de vous retrouver en 2021.
Merci.
Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi 12 décembre. 43e journée consécutive sans Covid-19 au Victoria. Et attentat de janvier 2015, la défense de Maclouf plaide l'acquittement faute de preuves. Et le Maroc est devenu le 4e pays à normaliser ses relations avec Israël en moins de 4 mois. Et voilà, notre émission de ce samedi touche à sa fin. Merci de nous avoir tenu compagnie aujourd'hui. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. Et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.